revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Tiens, aujourd'hui, j'ai fait tailler le rosier de l'arrière-cour parce qu'il en avait drôlement besoin. Et vous, vous me racontez pas votre petite journée?
Ah bah, faut le temps d'encaisser la vôtre, déjà. Pas toutes les émotions d'un coup.
Comment vis-tu? Comment vis-tu? On commence par toi. Et après, on va s'adresser à d'autres. Comment vis-tu? Ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie.
Radio sans nous. Moment témoignage.
Qu'est-ce qui nous fabrique avec leurs acides.
Hop, c'est parti tout seul. Eh ben, bonjour à tout le monde. Vous êtes bien sur Radio Sans Nous. Du coup, c'est lundi midi. Alors, aujourd'hui, au programme. Du coup, comme d'hab, on commence par un petit temps de témoignage. Du coup, aujourd'hui, on va aller voir du côté des intermittents, intermittentes. D'ailleurs, à propos de témoignages, on aurait bien envie de faire un peu des séries thématiques. Et là, un peu la série qu'on aimerait bien faire dans les temps qui viennent, c'est la question des mamans et des parents, et du coup, le fait d'avoir un môme à s'occuper au quotidien. Voilà, en fait, l'idée, c'est d'avoir des témoignages, mais un peu plus précis là-dessus, genre un petit interview de est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous vous organisez depuis un mois? Comment vous êtes organisé au début, comment ça a évolué, c'est quoi les questions que vous avez rencontrées, les problèmes, les moments où vous en aviez par-dessus la tête, les moments où ça l'a fait, un peu tout ça, et puis du coup d'aller un peu plus dans la vie et dans le quotidien. Voilà, histoire de partager un peu ce qui se vit là-dessus. Voilà, du coup, si t'es intéressé, n'hésite pas à nous contacter, à nous envoyer un petit témoignage, à nous contacter à radio.sansnous@cma-pdll.org. Et du coup, on va se lancer un peu sur cette thématique. Voilà. Commencer un peu sur les mamans, les parents, avec les mômes, comment ça se passe depuis un mois. Et puis après, on fera d'autres thématiques un peu comme ça. Voilà. Du coup, aujourd'hui, témoignage les intermittents, intermittentes. Après, dans le crieur public, on va avoir une petite interview de Monique Pinceau-Charlot, qui va nous parler du jour d'après. Après ça, on va avoir une petite étape de prospective où là, on part un peu dans de la science-fiction. Alors, c'est quelque chose qui a été collecté sur le site burburburinfo et c'était un appel un peu à faire des fictions. C'est un appel qui courait depuis décembre jusqu'à maintenant, à faire des fictions sonores, voilà, avec des bouts de réalité, des bouts de fiction. Et du coup, là, on est dans un univers un peu post-atomique. Voilà. Donc prospective, et puis ensuite on continue avec des sons et des cris sur Sepulveda, voilà. Et donc voilà un petit peu pour le programme de ce midi, les intermittents, intermittentes, Monique Pinceau-Charlot, prospective, fiction, post-atomique, et puis des sons et des cris de Sepulveda. Et envoyez des SMS à vos amis, et vous soyez prêts et prêtes, parce que à 14h, il y a de nouveau un quiz Harry Potter. On se fait tourner le message, on se retrouve vers 14h, alors peut-être c'est 14h02, peut-être c'est 13h59, peut-être c'est 14h05, voilà, autour de 14h, pour le quiz Harry Potter. Eh ben c'est parti, bonne écoute à vous.
Une boîte de prod en son administration et production de spectacles. Donc cette association est basée en Maine-et-Loire, à Blaison-Goyer. Elle existe depuis 15 ans. Voilà, on est des 3 salariés permanentes, donc il y a moi-même, Claire et Clara. Et donc, comme tous les acteurs culturels depuis un mois, on se trouve confronté à une situation inédite, d'une ampleur telle que, en fait, tout est bousculé, puisqu'on n'a plus du tout nos repères, le contexte économique, la donne politique, le cadre réglementaire, l'agenda culturel, tout est bousculé, voire annulé.
Avec leurs assédiques, paraît même qu'il y en a qui trichent, remplissant leurs fiches. Tous ceux qui passent à la téloche, ils s'en foutent plein les poches. Sans doute que ceux qu'on voit jamais, ils sont mauvais. Et toujours, toujours, ils se plaignent.
Les ordonnances du gouvernement qui en découlent, c'est le confinement, certes, mais aussi l'interdiction de rassemblement qui va se poursuivre au minimum pour nous jusqu'à mi-juillet. pour tout ce qui est représentation de spectacle, voire on n'est pas à l'abri que ça soit jusqu'à septembre. Et ça nous empêche donc de faire en sorte que les représentations aient lieu. Donc là, nous, on rentre dans un calendrier quand même culturel assez dense, puisque il y a tout ce qui est festival qui s'annule, les saisons culturelles des lieux qui s'annulent aussi. Donc voilà, là, on est en train de gérer tout ce qui est annulation, report, éventuellement indemnisation. Voilà, donc on se retrouve dans une situation financière très très compliquée.
Parce que du coup, l'annulation des festivals, ça fait à la fois des dates qui sautent, donc des cachets, mais c'est aussi un espace où les programmateurs-programmatrices, ils viennent pas mal, non, sur les festivals l'été.
Exactement, oui, exactement. Et puis là, ce qui est en train de se dessiner pour l'instant, c'est que les festivals qui s'annulent, notamment les festivals qui s'annulent pour cet été, proposent aux compagnies de reporter à l'année prochaine, mais ça veut dire laisser s'écouler un an sans date potentielle pour les intermittents et donc pour finaliser et boucler leur dossier de renouvellement.
Et puis j'imagine que par exemple, on sait là maintenant que jusqu'à mi-juillet les festoches sont annulées. On ne sait pas encore, même si on peut se douter qu'en août ce sera annulé, mais j'imagine qu'il y a des compagnies qui préparent Aurillac par exemple.
Oui, exactement, c'est ouais. Ça. C'est qu'en plus, là, c'est l'incertitude à plus ou moins long terme qui est très complexe, puisque, en effet, on se dit, il n'y a pas de raison pour que ça reprenne, que l'activité reprenne comme avant, d'ici mi-juillet ou après mi-juillet. Ça paraît complètement aberrant. Sachant qu'évidemment, les festivals, encore une fois, entre autres, les festivals, il n'y a pas que, mais c'est vrai que sur l'été, c'est souvent des festivals, ils n'organisent pas la veille pour le lendemain. Les organisateurs sont aussi en attente et ont besoin d'une réponse dès à présent, ferme, pour savoir comment s'organiser, quoi. Sur les subventions, c'est pareil, tout est mis en stand-by, donc qu'est-ce qu'elles vont devenir, les commissions qui se prononcent sur les attributions de subventions, quoi. Puis ça fait voler aussi en éclats tous les projets de création qui devaient avoir lieu, parce que là, il n'y a pas de possibilité de faire des résidences de création.
Qui s'étonne pas qu'on les jalouse, qu'ils soient chômeurs, moi ça me résiste, ils sont artistes. Les intermittents, les interminables, tant comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. J'aurais pas cru que de faire le con, ça soit un métier pour de bon.
Alors, il y a des choses qui ont été proposées il y a 15 jours, sauf que concrètement, déjà, on n'a pas la mise en place concrète. La chose n'est pas claire. Donc, il y a un décret qui est sorti, mais le décret, il est complètement interprétable. Et pour l'instant, on n'a pas de garantie que toutes ces heures qui vont être supprimées vont bien, à un moment ou à un autre, être dans la boucle du dossier des intermittents pour qu'ils puissent boucler leur dossier cette année. Voilà, donc là, on est toujours en attente de réponse. Et puis... Oui, puis encore une fois, tout est aléatoire, donc il y a des effets d'annonce gouvernementale, mais en fait, concrètement, dans la réalité, sur le terrain, c'est extrêmement difficile de mettre en place les annonces qui sont faites, quoi. Et c'est là où c'est un peu incompréhensible, c'est que, ok, on a compris, on est dans un truc d'urgence et il faut prendre son temps, etc., mais dans ces cas-là, ne faisons pas d'effets d'annonce trop rapides et prenons le temps d'analyser, en fait, tous les acteurs de ces champs-là pour pouvoir répondre aux besoins et aux difficultés de chacun d'entre nous.
Mais est-ce que tu crois que c'est un manque de temps ou plutôt c'est aussi... Enfin, on sait que le régime de l'intermittence globalement est malmené par les différents gouvernements depuis un paquet d'années. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt, en fait, à un moment politique, à profiter d'une crise pour sabrer encore plus ce régime-là?
Nous, c'est ce qu'on ressent. Après, on n'a pas toutes les réponses. Mais probablement que, évidemment, en pleine réforme d'assurance chômage, les intermittents en faisant partie, c'est probablement aussi une non-réponse pour pouvoir aussi dégager tous ces salariés-là, quoi.
Ouais, après, ce qui est très, voilà, ce qui est très déstabilisant, c'est que on nous donne, en tout cas, on donne l'impression, on nous fait croire que oui, on a entendu nos demandes et qu'on va y répondre. Et en même temps, en effet, il n'y a rien qui vient, ou en tout cas, c'est tellement, les réponses sont tellement à côté que, oui, tu te dis que ça les arrange bien quelque part. Que quand même on les cumule un peu, bon là c'est le pompon, hein, on est bien d'accord, mais quand même depuis des années ça se cumule, quoi. J'espère que là il y a vraiment beaucoup plus de gens qui vont voilà prendre conscience des choses et qui vont vraiment descendre tous dans la rue. Faut vraiment qu'on y arrive, parce que là c'est plus possible, quoi. Faut arrêter, moi ça j'en suis persuadée depuis toujours, d'être dans son précaré, quoi. Et puis c'est vraiment, là c'est, on se bat tous ensemble, peu importe qu'on soit fonctionnaire, intermittent, précaire, chômeur, salarié du régime général, salarié du privé, enfin peu importe, quoi. Il faut, enfin voilà, c'est ça, faut arrêter juste de regarder midi à sa porte. Et et en effet l'union qui fait la force, mais pas juste pour un focus, quoi. Il faut vraiment que ça soit sur la durée. Il faudrait vraiment une vraie, vraie, vraie révolution, quoi, parce que, putain...
Am, ram, ram, acédic, expédidam, qui va perdre ses droits, c'est toi.
Oh non, pas moi, oh.
La première semaine, je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais en fait, on est plusieurs à l'être dit, la première semaine à l'annonce du confinement, on était tous un peu sidérés, tu vois, donc t'es bloqué, quoi, tu n'avances à rien, t'attends, et depuis, une fois qu'on a passé cette étape-là, on est à fond dans la revendication, et surtout aller à la pêche aux infos, essayer de les comprendre, ces infos, et en fait, c'est hyper énergivore, épuisant, et du coup, Et c'est vrai que là, ça devient très angoissant, parce que, nous, en tant que bureau de prod, évidemment, là, on est sur le front depuis un mois, on bosse à fond, en face, on n'aura pas de rentrée d'argent, donc il faut aussi qu'on tienne financièrement. Du coup, on se bagarre de toutes parts pour avoir des réponses, et puis essayer aussi de donner des réponses qui rassuraient les artistes et les techniciens, les compagnies, parce qu'en fait, eux, ils sont paumés, quoi. Ils sont complètement paumés. Nous, du coup, on est salariés permanents, donc salariés de notre association, hein, et du coup, en effet, nous, on dégage une petite marge de fonctionnement pour pouvoir être rémunérés. Et donc cette marge de fonctionnement, elle est prise sur la vente des spectacles. Et éventuellement, par le biais de subventions, on n'a pas d'aide directe de l'État, quoi. Nos salaires, ils sont pris en charge directement par notre association. Tu vois bien, on est tellement submergés, là, et assaillis. Enfin, moi, je pense mes journées au téléphone ou sur Zoom.
Et c'est trop fatigant, quoi.
Ouais, alors, moi, je suis habituée dans le sens où j'ai toujours bossé de chez moi, puisque, en plus, là, c'est cool, on a fait un vrai bureau indépendant de la maison, donc ça, c'est chouette. Mais ça, je suis habituée. Mais là où la donne, elle a vraiment changé, c'est que, du coup, j'arrive pas à... D'habitude, j'arrive bien à décrocher de mon boulot en période normale, tu vois, quand il n'y a pas trop de problématiques. J'ai un emploi du temps où je bosse 4 jours semaine et le reste, je fais autre chose. Et là, sauf que là, on est tellement dans un truc angoissant, pas forcément pour moi, mais en tout cas pour les artistes qu'on accompagne, que du coup, j'arrive même pas à décrocher, parce que les gens m'appellent tout le temps, tu vois, et je sens qu'ils ont besoin de cet échange, quoi. Mais moi, je sais que j'avais vraiment besoin de sortir, du coup. J'ai toujours apprécié, c'est un choix de ma part de bosser de chez moi depuis très longtemps. Mais j'avais vraiment besoin d'extraire un tout petit peu ce lieu de vie, de boulot, de
si finalement tout ça, ça se mélange, parce que c'est aussi, comme c'est un boulot de passion, bah du coup, voilà, ça fait partie aussi de notre vie personnelle. Mmh. D'autant plus que Jérôme est aussi dans le secteur du spectacle, donc forcément. mais ouais, c'est important de... En tout cas, je plains les gens qui ne peuvent pas faire autrement que de bosser dans leur cuisine ou dans leur chambre, quoi. Parce qu'il y a aussi le fait qu'on se retrouve... Moi, je suis habituée au télétravail, mais on se retrouve aussi avec une vie de famille hyper dense, parce qu'on se retrouve avec nos gamins, gérer l'école à la maison, etc., quoi. Plus du boulot. Bon, ça y est, nous, on a trouvé notre rythme. Mais au début, c'était compliqué. Oui, parce que c'est vrai que... Enfin, après, nous, c'est super cool, parce que, tu vois, les artistes avec qui on bosse depuis super longtemps... Ils nous appellent tous pour savoir comment on va, ils nous remercient pour toutes les démarches qu'on fait pour eux et tout ça. Mais c'est vrai que souvent la parole est... Enfin, on a tendance à faire un focus que sur l'intermittence. C'est important, ouais. Évidemment, hein, parce que voilà, ça craint vraiment pour les intermittents. Mais c'est vrai que du coup, on oublie un peu vraiment que tout le... Il y a tout un pan de l'activité culturelle qui concerne pas que ceux qui sont sur scène, quoi. Ouais. Et c'est vrai que... Ça fait du bien aussi de pouvoir aussi donner son avis et son point de vue sur ce qu'on ressent, nous, à différentes échelles dans nos boulots, quoi. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que, enfin, on est habitué à être sollicité, mais en tant qu'administrateur, là, on est vraiment ultra sollicité, quoi. Et ce qui est super frustrant, c'est que d'habitude, on est toujours là à pouvoir donner des réponses concrètes et puis on dit enfin voilà à faire des choix, à se positionner rapidement, à dire bah c'est comme ça qu'on nous on va faire comme ça, etc., etc. Et là en fait on est aussi paumés et ça c'est vachement compliqué parce que du coup en face on a des gens qui ont vachement besoin de réponses pour être rassurés et puis voilà encore une fois on est là bah en fait attends un peu ça devrait se débloquer la semaine prochaine mais c'est pas sûr, et puis finalement ça se débloque, mais en fait c'est pas du tout la réponse qu'on attendait, donc il faut réinventer à nouveau des choses, quoi. Alors se réinventer c'est bien, mais dans un contexte d'urgence c'est vachement compliqué, quoi.
Ouais.
On va serrer l'ennemi de la taille, autour de notre drapeau, groupons-nous, que nous apporte la mort menaçante. Pour la sédique, soyons prêts à souffler. Mais le musicien...
La section de nuit se déroule devant la préfecture.
Ne doit avoir qu'un seul étendard. Un seul mot d'ordre, travail et justesse. Suivons le rythme sur un tympan d'acier. Aux frères, aux armes, pour notre lutte. Pour la victoire de tous les intermittents.
Jusqu'à mi-juillet, donc on va dire de mi-mars à mi-juillet, voilà, il n'y aura eu aucune représentation. Donc concrètement, même s'il y a cette histoire de chômage partiel, concrètement, c'est très complexe puisque on négocie comme on peut des dates de report à plus ou moins long terme. Mais voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on soit aidé. C'est pas demain, c'est pas dans deux ans, quoi. C'est pareil. Là, il y a eu une annonce a priori la région, ou les régions. J'imagine que c'est pareil ailleurs, mais qui ont débloqué un fonds d'aide pour tout le secteur culturel, sauf que pour l'instant, concrètement, la région Pays de la Loire, les aides qui vont être proposées, c'est pour les organisateurs, quoi. Donc nous, on va pas en bénéficier. C'est qu'en fait, ça n'englobe pas tous les acteurs économiques du champ culturel, audiovisuel. C'est que c'est pour l'instant, c'est juste une partie de ces activités. Pour l'instant, peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place bientôt, mais il faut vraiment que ça arrive bientôt. Parce que là, c'est hyper difficile pour nous de se projeter. Donc là, on met en place une demande de chômage partiel. Et pour nos emplois au régime général et pour les artistes et techniciens intermittents qu'on emploie. Mais c'est pareil, c'est compliqué parce que les chômages partiels, c'est bien beau, mais on peut pas abuser du système non plus. Et pour les artistes et les techniciens qui se voient leur date annulée, si tu veux, on va pouvoir éventuellement leur déclarer 7 heures par jour de chômage partiel, mais on est loin du compte des cachets de 12 heures, quoi. Voilà. Et bon, et puis c'est pareil, techniquement, l'inscription au chômage partiel, enfin là, ça fait, on a enfin réussi depuis hier à s'inscrire, mais ça a été un mois de galère informatique, quoi. Voilà. Okay. Donc tout est complexe, en fait. Et toute la problématique c'est aussi du cas par cas, là, clairement, oui. En fait, parce que finalement, rien que dans l'intermittence, ça a plein de cas de figure différentes à ceux qui sont intermittents depuis longtemps, mais qui devaient renouveler là maintenant, à ceux qui doivent, moi je vois Jérôme, lui, il avait largement de quoi finir boucler son dossier, ça fait 25 ans qu'il est intermittent, il n'a jamais perdu son intermittence, il doit boucler fin juillet, sauf que là, entre mars et juillet, il devait faire 300 heures qu'on sautait, donc tout d'un coup, t'es là, bah putain, comment on fait, quoi, parce qu'il avait largement de quoi faire, mais il n'a plus rien du tout. Alors, on nous dit que ça va être repoussé, décalé de 2 mois, mais encore faut-il que dans les 2 mois qui suivent la fin juillet, il y ait à nouveau possibilité de bosser, quoi, ce qui est loin d'être le cas. Enfin bon, bref. Donc, il y a plein de cas de figure différents. Il y a en effet tous ceux qui sont tout jeunes et qui allaient ouvrir leur dossier d'intermittent. Comment ils font? C'est vrai que c'est toute la complexité aussi de ça, c'est qu'en fait, il faut, non seulement il faut avoir des réponses, mais en fait, il faut en avoir pour tout le monde et tous les cas différents. Mmh. C'est pas une seule réponse qu'il nous faut, c'est des milliers, quoi.
Pour notre lutte, pour la victoire de tous les intermittents,
vous suivez derrière,
nous, on est syndiqués au Synavi, donc avec notre syndicat et a priori tous les autres syndicats du secteur culturel travaillent tous ensemble en réseau pour essayer d'apporter des réponses. Donc on interpelle les pouvoirs publics, mais malheureusement aujourd'hui on a encore trop de réponses gouvernementales qui sont encore aléatoires, quoi. Donc elles sont complètement imprécises, ça répond absolument pas à nos difficultés actuelles et ce qui va venir et ce qui nous attend d'ici la fin de l'année, voire même sur la saison prochaine. J'ai juste envie de mobiliser, de rappeler à tous, notamment aux artistes et techniciens qui peut-être sont un peu moins syndiqués, qui pensent que c'est pas pour eux, etc. Je pense que là, pour le coup, les syndicats et donc les adhérents des syndicats font un boulot énorme là depuis un mois et je pense que vraiment, encore une fois, c'est la parole collective et c'est la force qui pourra éventuellement faire bouger les choses. Et du coup, en effet, j'invite tout le monde à se rapprocher. Il y en a plusieurs hein, des syndicats, à se rapprocher d'un ou plusieurs syndicats pour avoir des réponses ou essayer d'en avoir. Et puis encore une fois, pour adhérer et puis faire un collectif vraiment fort. Mais bon, encore une fois, on est loin d'être les seuls dans cette galère, évidemment. On en a bien conscience aussi. Hein. Faudrait vraiment une vraie, vraie, vraie révolution, quoi, parce que, putain...
Voilà type qui se syndique, vu que leurs assédiques, ils y comprennent pas grand chose, ils en tiennent une dose, ils font la queue pendant des plombes, des fois y en a qui tombent, ils ont jamais le papier qu'on veut, ils font la queue. J'te le dis, moi faudrait qu'on me paye pour aller mendier mon oseille, même que souvent ils la reçoivent pas avant des mois. Les intermittents, les intermutants, les interminables, tout en comme des clignotants, un coup t'es brillant, un coup t'es minable. Faut croire que les coups de pied au cul, c'est remboursé par la sécu. Mais qu'est-ce qui nous panique avec leurs assédiques, voilà qui se mettent à faire la grève. Non, alors là, je rêve. Suppose que tous ils abandonnent, ça dérangerait personne. Il y aurait des jeux à la télé, ça serait le pied. Remarque, ils se laissent pas abattre, ils s'en vont jouer dans des théâtres. Je vois vraiment pas qui c'est qui ira payer pour ça.
Bonjour, je m'appelle Aïdé, je suis régisseuse dans l'audiovisuel et j'ai pas travaillé depuis la mi-mars, comme pas mal de gens.
Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre à travailler. Parce que bah, y a aucune date pour l'instant de reprise des tournages. On entend des murmures de couloirs comme qu'on ne reprendrait pas les tournages avant début octobre. Ce qui va foutre énormément de gens dans la merde, dont moi. Parce que les mesures qu'ils prennent pour l'instant, elles sont très floues. Personne n'y comprend pas grand-chose. Entre Pôle emploi, le gouvernement, on lit tout et son contraire. Et moi, par exemple, ma date anniversaire pour faire mes 507 heures, c'est le 8 juillet. Il me manque une petite centaine d'heures. Donc, pour l'instant, de ce que j'arrive à en comprendre, ça voudrait dire que ma date anniversaire serait décalée de 2 mois et demi, donc ce qui nous amène à quoi, mi-septembre. Sauf que entre le 8 juillet et mi-septembre, je n'aurai pas d'indemnisation de Pôle emploi. Donc pas de sous quoi, donc rien pour vivre pendant 2 mois et demi. Et en plus, les tournages, on n'est pas sûr qu'ils reprennent à ce moment-là. Donc je n'aurai toujours pas fait mes heures, donc je n'aurai toujours pas d'indemnisation, et donc je vais perdre des heures après de l'année dernière. Dire aussi pour l'instant ce qui va se passer, c'est que si on prend mon exemple où mi-septembre, imaginons j'ai réussi à faire toutes mes heures et ma nouvelle année de revenus d'intermittence s'est débloquée et... Il faut que je refasse 507 heures, mais là je n'aurai plus que 10 mois, je n'aurai plus que 8 juillet pour le faire. Il ne décale pas la date d'anniversaire de 2021, enfin de l'année d'après quoi. Voilà, un autre petit détail qui met en joie. Donc voilà, donc ça fout pas mal de gens dans la merde. Encore moi j'ai de la chance parce que je travaille dans l'audiovisuel. On risque de reprendre avant le spectacle vivant. Donc pour eux, je sais pas comment ils vont faire. Ça va reprendre, ce sera la période creuse de l'hiver en plus. Donc voilà. Les syndicats sont toujours en négociation, hein, ils n'arrêtent pas évidemment, parce qu'ils se rendent bien compte que des intermittents, en fait, il y en a beaucoup. Donc ça va mettre beaucoup de gens dans la merde. Ils réclament une année blanche, mais bon, moi j'y crois pas trop. Mais j'espère qu'ils vont faire en sorte comment on... je sais pas, on est de quoi vivre, quoi, un minimum. Parce que là, c'est sûr que ça va pas reprendre maintenant, hein, tous les événements culturels. On n'est pas près de les voir.
Solidarité.
Moi, je m'appelle Claire Bossé, je fais partie de la compagnie Eoliarp, qui est donc une compagnie qui existe depuis 20, peut-être même 25 ans sur Angers et puis, on va dire, sur le Maine-et-Loire. Voilà, et nous créons des spectacles autour de la musique, qui est le cœur et le nerf de notre travail, mais souvent en interaction avec d'autres formes artistiques, notamment le théâtre, la danse, même les arts plastiques. Voilà. Notre compagnie, elle tourne autour de 3 grands axes. la création de spectacles, bien sûr, et c'est le, on va dire, le nerf de notre travail, mais aussi de gros projets sur les quartiers avec des gens plutôt, on va dire, isolés, en solitude, et où la musique joue un peu un rôle de reprendre pied, reprendre confiance en soi. Donc voilà, donc on a des projets depuis une dizaine d'années, même peut-être plus, voilà, avec la ville d'Angers, sur les quartiers d'Angers. Et puis le troisième grand pan de la compagnie, c'est l'organisation de manifestations culturelles dans laquelle on emploie des artistes. Donc notamment, on fait la programmation d'une petite église à côté du Tourelle depuis 20 ans. Et là, c'est axé sur les musiques du monde. Et puis on organise le festival Flamenco en Loire qui a lieu tous les deux ans et heureusement pas cette année. Et un autre festival autour des films positifs.
L'entretien avec Claire est rythmé par les musiques de son projet Musica Mix et de leur spectacle Calamna.
Parce que il faut qu'on soit super honnête. Aujourd'hui, il y a plein d'intermittents qui vont être vraiment dans la merde parce qu'ils n'ont pas les dates qu'ils ont pendant les festivals l'été.
Ouais.
Donc ça, c'est un vrai, vrai problème pour beaucoup, beaucoup de compagnies. Et donc là, ils ne savent pas du tout comment ils vont pouvoir s'en sortir parce qu'ils font leur date en été. Et là, comme après, il n'y a pas l'été. Ben, donc là, c'est un vrai, vrai problème. Donc là, il y a plein, plein de compagnies qui sont très, très en difficulté. Mais en revanche, le statut d'intermittent, il est gelé. Enfin, la période de l'intermittence est gelée jusqu'à la fin du confinement. C'est-à-dire que c'est pas encore défini à quel moment ce sera, puisqu'on ne sait pas. Mais pour le moment, les mois où on ne travaille pas ne seront pas comptés dans la période de calcul de l'intermittence.
Ouais.
Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est les syndicats qui ont obtenu ça. Et c'est, c'est vachement bien. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas dire que c'est pourri parce que c'est vraiment, c'est super. C'est pas pour ça que ça va pas empêcher toutes les compagnies qui ont des dates et qui vivent grâce à l'été.
Ouais.
Hein, mais c'est quand même important de le mentionner, de dire qu'aujourd'hui, la période de confinement et gelée ne compte pas dans le calcul du statut. Alors, moi, ma date d'anniversaire, elle est au mois de mai. Donc, okay. Typiquement, je fais partie des gens qui ont... là, ça va pas du tout parce que j'avais à peine mon statut. Et le mois de mars et avril comptaient. Donc là, tout d'un coup, j'ai plus mes dates du mois de mai, j'ai plus mes dates du mois d'avril. Donc, heureusement que la décision par un décret a été prise que ces deux périodes-là étaient gelées, enfin, que les mois de confinement sont gelés. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas de cours et j'ai pas de date en cet été. Donc voilà, il va falloir que je récupère ces dates qui ont été annulées et que je trouve il faut qu'elles soient reportées, il faut que les ateliers que je menais, on les mette à un autre moment. Enfin, il faut que tous ces cachets que je devais avoir, je trouve un moyen pour qu'ils soient reportés, pour qu'ils soient comptabilisés dans mon statut. À un moment donné, sinon, je peux risquer de perdre le statut ou de l'avoir hyper limite et du coup de faire baisser mon taux de beaucoup. Ce qui n'est pas possible pour moi aujourd'hui. Donc, il y a une super mesure qui a été prise de geler, mais c'est pas cette mesure suffit pas à ce que nous, on retrouve des cachets, d'autant que tout l'été, a priori, il n'y aura pas de manifestation. Est-ce qu'il y en aura à la rentrée? Comment ça va se passer? Donc, l'avenir est assez incertain. Malgré tout, moi, le statut d'intermittent, il est toujours incertain d'une année sur l'autre. Donc, moi, j'ai jamais stressé, j'ai jamais flippé, je vais pas flipper aujourd'hui et j'estime de faire partie des gens encore très privilégiés. Et puis voilà, on trouvera des possibilités. Mmh. Après, nous, on a notre administratrice Fanny qui travaille toujours pour nous en télétravail. Et là, il faut sortir des cachets chaque mois, il n'y a pas l'argent qui rentre dans la compagnie. Donc, c'est effectivement un petit peu. Il faut qu'on trouve des solutions dans l'année à venir. Voilà, il n'y a pas un stress dans l'immédiat, mais dans l'année à venir, il va falloir qu'on travaille plus.
Mmh. Et
voilà, mais là, je vois pas trop, pour le moment, on peut pas faire grand-chose si ce n'est penser à des projets, inventer des nouvelles formes, et c'est pas évident non plus. Moi, j'ai plutôt l'impression en ce moment qu'on est protégé et qu'on est préservé.
Okay.
Que, hélas, on l'est pas parce que le gouvernement est gentil, on l'est parce que on fait partie de la culture d'une branche du business. De la société, du tourisme, etc. Et que quand la culture, la grosse culture, la culture élitiste, la culture institutionnelle est touchée, et ben le secteur économique et le secteur financier est touché aussi. Et que du coup, par ricochet, on est protégé.
Okay.
C'est complètement paradoxal. Et donc moi, mon point de vue, c'est un peu ça. Mais on est protégé dans une certaine mesure, je dis toujours, par rapport à... Il faut qu'on trouve des cachets, il faut que les dates qui ont été annulées pendant le confinement soient reportées et pas annulées, que les projets, tout ça, soient reportés. Si c'est annulé les SEC, ben là, on va vraiment, vraiment être en très grosse difficulté. Après, moi, je me suis syndiquée l'année dernière et je ne le regrette pas du tout. Parce que je remercie vraiment aujourd'hui le syndicat des artistes et la pression qu'ils ont mis au gouvernement pour que le décret soit voté pour geler les mois là, de confinement. Et je pense qu'il faut qu'on garde une vigilance incroyable, qu'on soit super au taquet et il ne faut pas lâcher l'affaire, hein, vraiment. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on n'est pas les plus démunis et les plus touchés aujourd'hui.
Ok.
Après, je parle en mon nom, hein. Vraiment, moi, avec ma compagnie, parce que je sais vraiment pas ce qui se passe pour les autres. Et bien sûr, la structure des artistes associés solidaires, le SAS, on est 35 compagnies. Et là, eh ben, on est en train de réfléchir tous ensemble. Est-ce qu'on va mettre une caisse de solidarité? Est-ce qu'on va inventer des choses? J'espère que l'on va trouver des petites nouvelles pour laisser personne sur le carreau. Là, c'est pour les compagnies de rue, c'est vraiment un trou énorme. Il y en a qui font presque tout leur cachet sur les 3 mois d'été. Donc, comment j'espère que ceux-là vont être soutenus, aidés, accompagnés. C'est pour ça qu'il faut rester très, très vigilant. Hein.
Ça donne quand même l'impression que les gouvernements successifs ces dernières années ont plutôt essayé, même si c'était jamais en allant au bout du bout et de supprimer ce statut-là, mais ont toujours essayé de le sabrer le plus possible, donc c'était pas très...
Ben, là, ces dernières années, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on est quand même, on a été protégés, il y a eu des améliorations du statut, donc on est plutôt épargnés, pourquoi, j'en sais rien, enfin moi c'est la vision que j'ai, mais peut-être qu'elle est erronée, ma vision. J'ai l'impression que ça ne revient pas sur le tapis, le statut d'intermittent, depuis au moins 3 ans.
Oui, c'est vrai.
Après, ça n'empêche pas d'être dans la rue pour justement soutenir tous les autres services en crise, les autres secteurs en crise qui le sont. Et peut-être que par ricochet, ce sera la culture après. Nous, on demande, c'est au secteur associatif de nous payer les heures qu'on n'a pas faites et d'être solidaire de la situation. Et donc ça, c'est là maintenant, ça va prendre beaucoup de temps sur le mois de mai-juin à contacter toutes les structures qui nous emploient et dire, bah alors, est-ce qu'on va être payé, on va pas être payé, et à elles aussi de trouver des solutions parce que c'est pas évident pour elles.
Mais donc, c'est ça, c'est qu'elles, elles savent pas encore si leurs financements vont être maintenus pour ces mois-là ou pas.
Voilà, voilà.
Du coup,
c'est une nouvelle période qui s'ouvre, j'ai l'impression. Là, moi, j'ai été très créative. C'est plutôt dans les projets artistiques, continuer à travailler et tout ça. Puis à un moment, ça va nous prendre beaucoup de temps de régler les problèmes administratifs.
Et chanson digitale et conte de Sheherazade.
Et puis après, il y a l'envie de pas laisser tomber les gens avec qui je travaille. Donc, essayer de garder le lien avec le public des quartiers, notamment du quartier de la Roseraie. Donc, ben, deux fois par semaine, on envoie des morceaux qu'on travaille, nous, pour un prochain projet autour de la musique espagnole, de la musique portugaise. Et ben, à chaque fois qu'on a un morceau qui est à peu près en place, on l'envoie sur le site de la maison du centre Jean Villard, où on se filme sur un morceau pour garder le lien et pas perdre... pas faire contact avec les gens, sachant que je ne sais pas si on va pas perdre plein de gens avec cette histoire-là, parce que pour beaucoup de gens, bah, ça a été replongé dans leurs 5 mètres carrés, dans leurs angoisses, dans leurs problématiques, sans pouvoir du tout ressortir et avoir des espaces de liberté, de sas, bah, que, avec notre projet Musicamix, par exemple, on permet aux gens aussi de sortir de leur solitude. Donc bah là, pour moi, il y a beaucoup d'inquiétude, d'angoisse, et d'essayer quand même de garder le lien. Mais est-ce que ça suffira? Est-ce que quand on pourra ressortir, on va retrouver ces gens-là? Est-ce qu'ils auront pas, seront pas redescendus encore plus loin et plus profond que là où on les a pris la première fois qu'on les a accueillis? Voilà, c'est plein de questions auxquelles pour le moment je peux pas répondre, mais il y a plein de gens dans les quartiers qui bossent de façon extraordinaire, qui garde le lien le plus parfait. Donc là, on est vraiment en relation avec Jean Villard. Après, pas énorme, hein, on s'appelle une fois par semaine. Et puis, on envoie deux vidéos. Moi, je dois envoyer une vidéo au centre social avec lequel je travaille aussi, à Marcel Benet. Mais je ne l'ai pas encore fait. Il y a aussi un temps d'inertie pour moi, en fait. Je réfléchis comment je peux garder le lien, j'enregistre un truc, je le fais, puis tout d'un coup je me dis ah ouais, mais ça peut servir finalement pour l'autre structure aussi, et puis mais c'est nouveau, donc on invente aussi une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de chanter. Moi je suis pas à l'aise avec les outils YouTube, machin, vidéo, tout ça, donc ça m'oblige un peu à me pousser, c'est pas facile pour moi. Après, il faut quand même qu'on soit payé, reste toujours la question du pouvoir avoir des cachets pour continuer à travailler et continuer à avoir notre statut d'intermittente. Ouais, alors ben, en fait, là, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble.
Oui.
Et puis, moi, je peux pas décider toute seule, mais moi, ça me donne envie vraiment de, tant pis, de recommencer à faire des choses qu'on faisait plus du tout. Genre, tu joues au chapeau, ben, mm. Voilà, en tant qu'intermittent, on peut pas jouer au chapeau, sinon... Et pourtant, et ben là, en solidarité avec les bars et tout, moi, je me vois très bien redémarrer, jouer au chapeau et aider à ce que la musique continue de vivre et de résonner dans les rues, dans les bars. Dans les... Mm. Voilà, c'est pas parce qu'il y a eu cette période-là que tout d'un coup, les artistes vont plus se produire et puis provoquer des moments chaleureux, conviviaux. Donc voilà, on va tous devoir repenser notre confort et c'est bien aussi, je pense. Mm. Mais voilà, moi j'ai aussi la chance d'avoir le statut et de pouvoir aussi faire les deux. Après, quand je pourrais plus faire bien, ce ne sera pas possible.
Mm.
C'est comme une espèce de marmite où on bouillonne à l'intérieur, ça gronde. Et en même temps, c'est super créatif, c'est pour nous artistes. Moi, ça me donne mes journées sont 10 fois trop courtes. J'ai pas assez le temps de creuser la musique, d'entendre des gens faire des choses fabuleuses. Voilà, ça me donne des envies dingues. Et en même temps, il y a ça derrière et la récolte gronde parallèlement. Dans quel état je suis moi en tant qu'artiste ou pas en tant qu'artiste, en tant que Claire dans un moment comme ça. Donc évidemment pour moi il y a d'abord une énorme colère, un espèce de truc en toile de fond qui gronde à l'intérieur de moi autour de toute la question de l'écologie, de toute la question des services publics, de toute la question de l'éducation, de toute la question des transports, enfin de tous ces sujets qui m'animent depuis très longtemps. Et quand tout d'un coup on se retrouve dans le mur et non plus au pied du mur, évidemment que c'est d'abord une énorme colère que j'ai ressentie. Et là c'est en dehors de ma position d'artiste. Peut-être si, parce que je suis quand même une artiste engagée, on va dire. Mais du coup, après, ça a fait place plutôt à une envie de réagir et de me dire, eh ben, ce temps-là, il faut quand même l'utiliser d'abord pour continuer à comprendre dans quel monde on vit et dans quel monde on veut vivre et les choses sur lesquelles on... Et là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais comment être de plus en plus radical et ne pas laisser passer les choses qu'on a laissées passer sans s'en rendre compte. Ou en tout cas, on les laissait passer parce qu'on se disait qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, il y a une histoire de radicalité qui monte en moi, qui rejoint peut-être un peu votre radio. voilà, de ce que je fais de mes journées, je prépare un nouveau répertoire, je garde le lien avec les gens et je réfléchis au monde dans lequel j'ai envie de poursuivre mon existence et celle de mes enfants.
Ok.
Donc là, il y a une grande solidarité, qu'on est plutôt, je te dis, pas si mal lotis. Enfin, voilà, quand je vois les gens qui ont perdu leur boulot, qui sont dans 10 mètres carrés, il y a tellement de gens qui sont sur la paille aujourd'hui. Et que j'espère que ça va nous obliger à repenser le monde autrement. Hein.
Ouais.
J'ai plutôt une vision globale. Le revenu universel, il devient indispensable après des crises comme ça. Alors évidemment, ça fait utopie. Il n'y a pas le choix pour moi. Non, j'ai envie de dire que c'est une période étrange et qui me rapproche beaucoup de la nature aussi, parce que j'ai la chance d'être potager, de penser l'autosuffisance alimentaire, et de me rapprocher de ça, et de me dire que voilà, les choix qu'on a fait aussi avec des jardins partagés depuis bien longtemps et tout, ben, c'est une voie qui va peut-être être encore plus. Enfin, ça me confirme dans tous les choix que j'ai fait en fait, et ça me donne encore plus envie d'approfondir, de creuser le lien social, la solidarité, la proximité des gens, de faire tout en proximité, d'arrêter la bagnole, de faire du vélo, de plus prendre l'avion. Enfin, c'est des vrais choix énormes, donc c'est pas simple dans ma tête, mais c'est passionnant et c'est ça bouillonne. Et ben alors, au revoir, et puis merci d'avoir questionné.
C'est eux les intermittents, les intermittents, les interminables. Tant comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. Je parie que tordu comme ils sont, ils vont même en faire des chansons. C'est eux les intermittents, les intermittents, les interminables. Tant comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable.
Je ne suis qu'un troubadour, j'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond, mais je ne peux rien y faire, rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Dam dam di dam, di da dam dam, di dam di dam, di dam dam di dam.
Le monde va mal, je m'en amuse. Insolent, impertinent. Quand nos dictateurs abusent, j'en fais une chanson, ça fait rire les gens.
De toute façon, que puis-je y faire? Avec mes coups de gueule, mes calembours, les politiciens, les militaires, moi, je ne suis qu'un troubadour. De toute façon, ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui, je préfère chanter en attendant demain. Chanter en attendant demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Dam dam di dam, di da dam dam, di dam di dam, di dam dam di dam, di da dam dam di dam. Quand je me mets à chanter l'amour, on me dit comment tu oses souffler les pétales d'une rose alors qu'il y a dans ce monde tous ces morts. Et si je me mets à chanter la guerre aux armes citoyens, en donnant des slogans révolutionnaires, on sait comment ça se termine à la fin. De toute façon, ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui, je préfère chanter en attendant demain. Chanter en attendant demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'arrive mon monde, mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond, mais je ne peux rien y faire. Rien plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Dam dam di dam, di da dam dam, di dam di dam, di dam dam di dam, di da dam dam di dam.
Et en simple troubadour, sans voix ni raison ni maison, même si je sais qu'un jour je ne vous chanterai plus mes chansons. Même si je sais que ce monde n'est pas le mien, que même mes chansons ne peuvent rien y faire. Je sais qu'aujourd'hui je préfère chanter pour un autre demain. Chanter pour un autre demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Autour du pot de ce monde à refaire. Autour du pot de ce monde à refaire. Dam di dam, di da dam dam. Didam 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 dam didam didam dam didam 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 dam didam didam dam didam 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 dam didam didam dam didam.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Passage d'information, petite annonce, coup de gueule, défi.
envoie un mail sur radio.sansnous@cma-pdll.org et on le lira.
Radio sans nous, crieur public, petite annonce.
Tous les jours à 12h30 ou à 19h45.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Leur miette, on n'en veut plus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le pouvoir et la destruction d'un système capitaliste qui va tuer l'humanité et détruire la planète. Il y a une pandémie mondialisée, très grave, avec un virus méchant. Et puis, les capitalistes, dont le grand chef est à l'Élysée pour ce qui concerne la France, les capitalistes, ils profitent de ça pour faire ce qu'on appelle la stratégie du choc. Naomi Klein a écrit un très joli livre là-dessus. C'est-à-dire pour arriver à accélérer la violence du capitalisme. Pendant que nous, on est confinés, ben Macron, il a tout de suite fait passer le 49-3 pour la réforme des retraites, tout en disant, quelques jours après, que la réforme des retraites, c'était fini, qu'on reviendrait dessus de toute façon, alors que c'est passé de manière autoritaire. Ensuite, il a fait ce plan d'urgence sanitaire et sociale, qui est passé toujours par ordonnance et qui déroge donc au code du travail et qui donne les pleins pouvoirs aux employeurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on est face à un confinement à géométrie variable. C'est-à-dire que le coronavirus est devenu un virus de classe. Pour bien comprendre le jour d'après, il faut donc bien avoir intégré cette hypothèse qui est la nôtre, hein, la guerre de classe. C'est une guerre. Et le coronavirus n'en est qu'un champ de bataille. Une des premières mesures après le 49-3, dès le samedi 29 février à 13h devant une assemblée nationale vide, l'ensemble des pays occidentaux ont décidé, alors là ils étaient tous d'accord, de mettre en sourdine complètement leurs engagements vis-à-vis de la COP, je ne sais plus combien, leurs engagements internationaux. C'est une des premières mesures qu'ils ont prises. Donc voilà, le dérèglement climatique est la seule solution aujourd'hui pour éliminer la partie la plus pauvre de l'humanité, parce que ce sont des bouches qui ont faim, des bouches qui ont soif, et aujourd'hui la planète est foutue à cause seulement des capitalistes. L'objectif conscient et déterminé de cette classe, de cette caste, de cette mafia, de ces criminels en col blanc, on ne peut pas les appeler autrement, c'est bien d'exterminer la moitié la plus pauvre de l'humanité avec l'arme terrible qu'est le dérèglement climatique.
C'est très grave ce que vous dites, Monique. Là. Exterminer carrément.
C'est un holocauste climatique. C'est-à-dire que pourquoi il faut se demander, et là, du coup, on est dans un test, si vous voulez. On fait à géométrie variable pour tester. Comment se fait-il que les travailleurs continuent à aller travailler? Ils n'ont pas le choix. Ce sont des esclaves des temps modernes qu'on n'appelle pas esclaves. Mais leur situation est d'ailleurs bien pire que celle des esclaves. Parce que quand un propriétaire avait son esclave qui mourait d'une maladie ou d'un accident, ben, il perdait de l'argent parce qu'il fallait qu'il rachète un autre esclave. Tandis que là, un travailleur meurt du coronavirus parce qu'il n'a pas été protégé à un moment où il aurait dû l'être. Il y en a 100 000 qui attendent à la porte. Donc, il ne faut pas que vous jouiez les vierges effarouchées. Mais comment est-ce que c'est possible qu'ils fassent des choses pareilles? Les grandes fortunes ont toujours eu comme compagnon de route la violence. Le premier test, pour moi, c'est la capacité de courber les signes. La capacité de la servitude volontaire, la capacité des êtres humains à obéir, à avoir peur de la responsabilité, à avoir peur. Et pour ça, ils nous ont bien préparés, on a été manipulés pendant des années et des années avec 10 milliardaires qui possèdent 90% des médias français. Et là, la propagande, sous couvert de défense des droits de l'homme et de démocratie, ça marche, de sorte qu'aujourd'hui, les gens obéissent. Donc ça, les gens acceptent le confinement, les gens restent confinés, et ils ont raison, je ne peux pas leur donner tort. Mais par contre, c'est absurde que ce soit géométrie variable. ce jour d'après ne sera juste dans ce que nous avons à faire que si nous avons bien pris conscience que c'est un rendez-vous historique avec l'humanité, avec l'avenir de la planète, avec l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Écoutez, c'est quand même pas possible qu'on laisse les générations futures avec cette vision a posteriori de nous qui avons profité sur le marché de la contestation sociale, des miettes du capitalisme, qui n'avons pas été à la hauteur. Et là, ce jour d'après, ça doit être le jour, ce jour-là, de la révolte, d'une révolte d'une désobéissance totale. Mais pour ça, pas d'une désobéissance violente. Nous, notre force à nous, c'est la force du nombre. Donc, on doit être très nombreux, les premiers qui vont sortir du confinement, à occuper les places publiques, parce que là, ça va être très important d'être dehors, de manifester notre joie, d'être ensemble, de pouvoir se parler, de pouvoir festoyer ensemble, avec des mégaphones, tous avec quelque chose à dire, occuper l'espace, aller systématiquement dans les beaux quartiers, des potrons minets, montrer qu'on est là, montrer qu'on n'est pas content, qu'on n'oubliera pas, leurs miettes, on n'en veut plus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le pouvoir et la destruction d'un système capitaliste qui va tuer l'humanité et détruire la planète. Ben, quelque chose comme ce qu'on est en train de vivre là. On est dans un jardin au soleil, on est dans l'échange, il fait beau, il y a des fleurs, il y a même des oiseaux qui chantent, il y a encore des oiseaux. C'est-à-dire, c'est ce que Orwell appelle la décence ordinaire, c'est-à-dire notre humanité, la conscience de notre finitude. Ça, c'est tellement important de savoir qu'on est des mortels, qu'on va mourir. Alors pourquoi se faire la guerre? Pourquoi s'entretuer? Pourquoi vouloir de l'argent, de l'argent, de l'argent? On est dans un monde totalement absurde, ubuesque. Et donc, c'est l'amour, l'amitié, la pêche, je ne sais pas quoi vous dire, manger, rire, être humain, c'est tout. C'est ça mon rêve, pour nous tous.
Vous écrivez et nous crions pour vous!
Y'a pas que le poids de ta croix, les variations de ta voix, t'as passé ton toit et puis le temps de ta souche. Pénurie, rien ne t'empêche de gueuler le venin que tu prêches, mais va pas te persuader que ce que t'auras insulté viendront te consulter et même te faire de la lèche. Moi je viens du camp de la dèche, le 93, si tu me cherches, tu peux dans tes débats cramer des pieds là-bas. Personne ne priera l'enfant divin de ta crèche. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Chaque fois que tu chiales à l'antenne, que tu te sens plus chez toi, que le coq est entaché, qu'il peut même plus chanter, mais on s'en fout de ta gêne.
Élite.
il a mal. C'est toi qui décide et tisse la toile. Répète à celui qui crève la dalle. Sans toi il n'est rien jusqu'à ce qu'il l'avale. Pour toi la richesse est cruelle, car souvent tu te plains qu'au sommet on y gèle. Tu protèges tes biens avec des sentinelles, et les forces de l'ordre te seront toujours fidèles. Si jamais tu manques, tu voles, évidemment. À la fin, c'est toi qu'on console, et c'est toi qui me tutoie, alors je te connais pas. Et puis c'est toi qu'on voit tes gosses dans de grandes écoles. C'est tout en toi qu'a la parole, et c'est toi que j'ai envie d'arracher par le col. Qui ne verra jamais les murs d'une cellule, et c'est toi qu'on sauve quand la maison brûle.
Allez, lève-toi. Allez, ton métro. Tu vas t'en retard.
Rigolo, hein.
Ton petit boulot.
Celui qui a eu l'idée de rejouer à travailler, je lui préviens une caresse.
Allez, on a pas au bureau, on a essayé de tenir la matinée, mais c'est de plus en plus dur, hein.
Oh, bah, j'ai joué une fois par mois, mais... Tu vas arrêter parce que c'est vraiment trop dur.
Très précisément, mais c'est pas ce qu'on veut faire.
Est-ce que vous êtes heureux, monsieur?
Est-ce que vous êtes heureux?
Ça dépend ce que vous appelez heureuse.
Ça dépend.
Ça dépend de quoi?
Ça dépend sur quoi?
De quoi demain sera-t-il fait?
Imaginons maintenant le monde d'après Corona. Un programme de radio sans nous.
Madame, monsieur, bonsoir. La France est-elle en train de vivre son premier accident nucléaire? La question se pose après la succession d'incidents la nuit dernière dans le réacteur numéro 1 de la centrale.
Tous les réacteurs sont désormais touchés. Les taux de radioactivité s'élèvent dangereusement, ce qui pousse la population à fuir les zones potentiellement contaminées.
Monoculture à perte de vue, le vertige me prend, une terre cultivée, vidée, labourée, éventrée, tout le vivant contrôlé, tout seul bientôt irradié, alors après le vertige, vient ma rage. J'ai rien à proposer, juste envie de tout péter, la culture, éolien, nucléaire, l'NTHT, c'est la civilisation que je veux voir voler en éclats, pas simplement ce lumineux, la volandra.
fier d'être un gasseur de sang avec mes terres, rageur d'aimants, mangeur de cailloux assumés, me demande jamais d'être clément. Depuis que vous avez débarqué, embarqué tous mes copains, j'ai envie de vous embrasser avec un pavé au goût de ma haine. Le flou coule dans mes veines et commence à embraser ma colère, fait bouillonner ma déterre, envie de vous mettre la misère. Je suis pas d'un arrêté pour pouvoir nous arrêter, méchamment révolté, jamais vous casserez notre champ.
Pour les casseuses, les hackers, les squatteurs, des gens qui essayent de penser droit même dans des vapeurs, des trans pour la chaleur, je les change. Contre le monde que l'on a fui pour les soi-disant profiteurs qui caillent à moins 10 dans la nuit. Les gens de suite face au GM, la peur au bine ne nous arrête pas, on leur place dans les pieds, on les prend reculé, car si on est ensemble, on a assez de bras, les connexions se font de la ZAD à la Zira. Avec la force du nombre, c'est le vieux monde qu'on enfouira.
Des casseurs, des gens qui jouent au mateur, des gens qui s'opposent aux désastres, ne sont rien d'autre que des gendarmes. Les chasseurs du Maine au volant sans moteur, ils sont trop lents, ils se mettent à dos, les paysans qui tirent la sonnette d'alarme en gras, marchent sur des œufs, la vie des votes répressés pour qu'ils les laissent faire, sans qu'ils ouvrent les yeux à bure. Mandron, les cris à haute voix, le nucléaire en continu, on le démantèlera.
Vous, pour mes bleus et mes blâmes, barrez-vous sur le côté, vos battes pliées s'il vous plaît, vous avez votre permis de fuir. Je vois que vous êtes pas en reine, là, votre assurance a dépassé ma ratio, mon couplet, vous savez. Garo larva des plaines qui déplaît à vos gardiens nobles, les renégats font des dégâts et que les dégouvrons défendent les phares de l'ordre.
S'il y a donc 3 mois cette semaine, où en est-on là-bas?
Il y a 5 ans, jour pour jour, le monde découvrait avec stupéfaction les images du...
C'est un état des lieux sur les conséquences sanitaires de cette explosion. 20 ans après...
Ce qui arrive à la Terre, arrive aux fils et aux filles de la Terre. Tchernobyl, Windscale, Nagasaki, Hiroshima. L'impensable contradiction liée aux déchets nucléaires soulène et bien là. Les générations futures devraient avoir d'éternelles connaissances de leur nocivité. Aujourd'hui et la génération actuelle ignorée jusqu'à l'oubli total.
Anford, Cadarache, Valduc, Saclay, Soulaine, Saint-Laurent-des-Eaux, Rouyères-le-Châtel, Malmy, La Havre, Three Mile Island.
Sonore avec des bouts de réalité dedans.
Il est défendu de sortir les nuits qui viennent.
Oui, nous approchons de la grande fête du Karen Anne de Nommel.
Nous devons rester dans nos abris.
Nous ne devons pas montrer notre existence.
Et dans ce cas, au tournoi. Le père Nomnel viendra.
Tel Césium, notre grand ennemi ineffable. On ne le voit pas, on ne le sent pas.
Et cette fois, nous le verrons.
Oui, nous irons au tournom.
En français, le mot décontaminé appliqué à la radioactivité est tendancieux. Selon le dictionnaire historique de la langue française, le préfixe « dé » indique qu'une action s'effectue en sens inverse ou est annulée. On peut ainsi dérouler, défriser, déplier... Mais ce n'est sans doute pas un hasard si les verbes « détuer »,« démassacrer » ou « déviolé » n'existent pas. Certaines actions sont irrémédiables. On ne peut pas les inverser ou les annuler. La pollution radioactive est de celle-là.
Le moment est arrivé. Tu es prête ?
Oui, j'ai pris des réserves pour 5 nuits de voyage.
Le jour commence et tout le monde se repose. C'est le moment de partir.
Oui, j'ai déjà hâte de voir les tours de Nome et le père Nomnel.
En lançant le mot d'ordre de décontamination, les autorités japonaises veulent croire et laisser croire qu'il est possible, au prix de nombreux efforts inégalés, de venir à bout de la radioactivité comme on vient à bout d'une épidémie. Réflexe optimiste de désinfection, hérité des heures de gloire de la médecine moderne.
Tu les imagines comment, toi, les tournomes ?
Elles sont au nombre de 4. L'une d'elles est éventrée et laisse couler l'Ura, qui nous fait vivre, nous le peuple des Viras.
Et tu l'imagines comment, toi, le père Nomnel ?
Bah, il est grand et il porte des vêtements violets, comme le sang des Viras, et ses mains ont 5 doigts. Il vient une fois par an, au moment où les nuits sont les plus longues au Tournum, afin de vérifier le taux du rat, et il vérifie que tout va bien.
Dans les cas des radiations, aucun désinfectant n'a jamais été mis en évidence. Il n'existe à ce jour pas de moyen technique de tuer la radioactivité comme on tue un germe. On ne peut que la déplacer. Si vous parvenez à lessiver une surface radioactive, vous obtenez de l'eau radioactive. Si vous frottez un objet radioactif, vous obtenez un chiffon radioactif. Brûler une plante radioactive disperse une fumée radioactive dans l'atmosphère et ainsi de suite.
Selon la description donnée par la légende, on devrait arriver demain.
J'ai hâte de voir les tournums, le cœur de notre cœur, le souffle de notre souffle.
Oui, c'est en ces lieux que le sang des Ira est né.
Oh, mais reposons-nous maintenant. Le jour porte conseil.
Suivant les instructions du gouvernement japonais, la municipalité de Fukushima a publié un manuel d'autodécontamination à l'usage de ses résidents. Première étape, effeuillez tous les arbres de votre jardin, déracinez buissons, plantes et gazon, ramassez pierres et cailloux. Seconde étape, pelletez la terre de surface à hauteur de 5-6 cm sur toute la surface du terrain. Enfin, mettez tout ceci dans des sacs en plastique et enterrez le tout sous une grande bâche, dans votre jardin. En gros, enterrez votre jardin dans votre jardin.
Là, je les vois, les tournums. Elles dépassent des arbres.
Elles sont belles. On dirait des passerelles vers le ciel.
Le plus gros reste à faire. Il nous faut nous cacher pour voir le père Nomnel. Il viendra du ciel par hélicoprène. C'est ce que dit la légende.
Oui. Et à ce moment-là, nous pourrons lui parler. Bon, trouvons une cachette pour passer le jour.
Les faits sont là. Nous sommes aussi impuissants face à la pollution radioactive que ne l'étaient les populations du Moyen-Âge confrontées à une épidémie de peste. Notre sort est certainement moins enviable, dans la mesure où les conséquences de nos épidémies nucléaires ne disparaîtront jamais. Mais nous avons l'avantage d'en connaître très précisément les causes. Nous savons ainsi qu'il suffit de continuer à laisser cette industrie fonctionner pour pouvoir prédire avec certitude la survenue d'une nouvelle dévastation, et vice-versa.
Ah, tu as entendu ?
Oui, tu crois que c'est le père Nomnel ? Le voilà ! Il arrive par l'escalier.
Mais son costume n'est pas violet.
Il est gris.
On ne voit pas sa tête.
Elle est recouverte d'un masque.
Il vient vers nous.
Les micros à Noël. Me recevez-vous ? Où en êtes-vous ?
Noël à l'hélico. Noël à l'hélico, je suis sur zone. Je commence à effectuer les mesures annuelles de radioactivité. Je me trouve... Attendez.
Que se passe-t-il ? Répondez !
Reste de repas ? Je ne comprends pas.
Allons lui parler. C'est le moment.
Quels seront ces archéologues qui découvriront les vestiges de la civilisation nucléaire ?
Communiqué de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion du désastre radioactif. L'équipe scientifique qui s'occupait des mesures annuelles de décontamination ce matin mardi 20 décembre 2039 a été attaquée par un grand nombre d'individus irradiés qui auraient survécu à la catastrophe. Alors que l'on croyait la zone complètement ravagée par le drame qui a eu lieu il y a 30 ans. Les autopsies des corps ont révélé un système sanguin modifié de couleur violette, une vision qui leur permettrait de vivre la nuit et des membres ne comprenant que 3 doigts. L'armée a été appelée pour sécuriser la zone et neutraliser les individus irradiés qui présentaient un risque de contamination.
Les femmes et les hommes de l'Andra conçoivent et mettent en œuvre dès aujourd'hui les solutions et les stockages les plus sûrs et les plus responsables pour protéger tant l'homme que l'environnement du danger que représentent les déchets radioactifs. L'Andra les prend en charge et les met en sécurité pour les générations futures.
Un truc bizarre.
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà.
Ah.
La 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 la.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion.
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors.
La la.
Mais.
La la la
la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un incendie.
C'est normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu. Et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien, tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur. C'est normal. La 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 la.
Alors, on va tomber.
La la la.
Du 15e étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La.
D'accord.
La 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 la.
La 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 la. La 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 la. Arrête.
La 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 la. Quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatiguante.
Pardon.
On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et
En arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, ouais. Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
Nouveau rituel sur Radio Sans Nous, tous les midis, des sons, des cris. T'as envie de nous parler des cris, de crier, de nous parler d'un livre que t'as aimé ou d'un texte, de nous en lire un extrait ou la totalité.
J'adresse aussi ce courrier à d'autres noms.
On attend tes contributions sur radio.sansnous@cma-pdll.org. Objet du message, des sons, des cris. Dans cette édition de Des sons d'écrit, on souhaitait rendre hommage à Luis Sepúlveda, mort le 16 avril à Oviedo en Espagne, à l'âge de 70 ans. Luis Sepúlveda, c'était un écrivain et militant chilien dont on va essayer de faire le portrait ensemble. Ce que je vous propose, c'est d'écouter son dernier texte paru en français, qui a été publié par Le Monde Diplomatique, qui s'appelle « Chili, l'oasis asséchée », qui parle de la situation au Chili en décembre. Très rapidement et sans être spécialiste, on pourrait au moins se dire que la version qu'il aimait donner de sa vie, c'était qu'il était petit-fils d'un Andalou anarchiste contraint de fuir l'Espagne pour s'exiler en Équateur puis au Chili, ça c'était du côté paternel, et d'un chef indien mapuche par sa mère. Il s'est engagé dès 12 ans auprès des jeunesses communistes et par la suite, son appartenance à la garde rapprochée du président Salvador Allende lui a valu, sous la dictature d'Augusto Pinochet, d'être condamné à 28 ans de prison pour trahison et conspiration. Il a été libéré en 1977 après 2 ans et demi de prison grâce à une campagne menée par Amnesty International. Suite à ça, il s'est engagé auprès des sandistes dans la révolution au Nicaragua. Et il a fini par s'exiler. On le connaît pour plusieurs choses. On le connaît d'abord pour ses romans, dont on pourrait citer au moins Le vieux qui lisait des romans d'amour, qui est un roman mondialement connu. Il a aussi écrit des romans policiers, des livres politiques et des contes pour enfants, notamment Histoire d'un chien mapuche. Il a vécu en exil une grande partie de sa vie, d'abord en Allemagne, puis en Espagne. On pourrait aussi dire qu'il a été correspondant pendant une énorme partie de sa vie du Monde Diplomatique édition chilienne.
Décembre 2019, Chili, l'oasis asséchée, par Luis Sepúlveda. C'était début octobre, quelques semaines à peine avant l'explosion sociale qui secoue le Chili dans toute la longueur de son étrange géographie. Une explosion qui, à la fin novembre, s'était traduite par plus de 20 morts, des centaines de mutilés, des milliers de blessés, un nombre indéterminé de détenus, des actes de torture, des agressions sexuelles et d'innombrables atrocités commises par la police et les forces armées. Juste avant ce basculement, le président chilien Sebastián Piñera s'était exprimé par les convulsions qui balayent le reste de la région. Il avait alors présenté le Chili comme un oasis de paix et de tranquillité au milieu de la tempête. Ce n'était pas la présence d'une eau particulièrement douce, ni de palmiers aux feuillages exubérants, qui caractérisait cette oasis, mais les barrières apparemment infranchissables qui la ceinturaient. Les Chiliens se trouvaient du bon côté de cette clôture, forgée dans un alliage singulier. Économie néolibérale, absence de droits civils et répression, les trois métaux les plus vils. jusqu'à ce que la foule noircisse les rues chiliennes ces dernières semaines. Les économistes et les dirigeants politiques qui s'accrochent au credo « moins d'État, plus de liberté d'entreprendre » comme à une bouée expliquaient qu'un miracle s'était produit au Chili. Presque par génération spontanée, de ce miracle, ils lisaient la preuve irréfutable dans les chiffres de la croissance et dans des statistiques économiques applaudies par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Mais ce petit paradis austral n'existait pas pour l'ensemble de la population. Il ignorait tout de détails apparemment aussi subjectifs que le droit à un salaire juste, à des retraites décentes, à une éducation publique de qualité, à un système de santé digne de ce nom. Il ne s'intéressait guère aux droits des citoyens à décider de leur sort au lieu d'être relégué à la seule fonction de déglutir les chiffres macroéconomiques dont le pouvoir s'emploie à les gaver. Le 11 septembre 1973, un coup d'État emportait la démocratie chilienne. Une dictature brutale s'installait à Santiago où elle se maintiendrait pendant 16 années, non pour restaurer un ordre menacé ou pour sauver la patrie de la menace communiste. Le projet qui a motivé le coup d'État était de mettre en œuvre les préceptes des gourous du néolibéralisme, emmenés par Milton Friedman et l'école de Chicago. Il s'agissait d'instaurer un modèle économique d'un type nouveau, lequel engendrerait à son tour un nouveau type de société, un monde contraint au silence où la précarité serait la norme et l'absence de droit la règle. Un monde où les fusils se chargeraient d'assurer la paix sociale. La dictature civico-militaire a atteint ses objectifs. Elle les a inscrits dans une constitution dont le texte consacre le modèle économique instauré par la force et les riges en définition du pays. Aucune autre nation latino-américaine ne s'est dotée d'une boussole aussi fidèlement alignée sur le bien-être d'une minorité au mépris du reste de la population. Avec le retour de la démocratie, ou pour me dire la transition chilienne vers la démocratie, à partir de 1990, les règles du jeu n'évoluent pas. La constitution de la dictature est retouchée sans qu'on en modifie l'essentiel. Tous les gouvernements de centre-gauche et de droite qui se succèdent s'emploient à maintenir le sacro-saint modèle économique, cependant que la précarité gangrène dépend de plus en plus vaste de la société. Si lors d'un repas, vous avez deux personnes et deux gâteaux, d'un point de vue statistique, la consommation est d'un gâteau par personne, même si l'une des deux mange tout, sans rien laisser à l'autre. Voilà le tour de passe-passe qui permet au Chili de présenter son modèle comme une réussite. Pas vraiment une dictature, pas vraiment une démocratie. Il assure sa survie grâce à la répression et à la peur. L'un des hommes les plus riches du monde, Monsieur Julio Ponce Leru, ancien gendre du dictateur Augusto Pinochet et héritier par ordre du général d'un empire économique bâti en dépouillant les Chiliens de ce qui leur appartenait, a versé d'immenses sommes d'argent à la majorité des sénateurs, des députés et des ministres afin qu'ils poursuivent servilement les privatisations. Lorsque la société l'a découvert, l'État a répondu en deux temps. Il a suggéré que critiquer ces faits revenait à mettre fin au miracle chilien. Il a organisé la répression des manifestations. Au Chili, l'eau appartient à une poignée de multinationales. Toute l'eau, celle des rivières, des lacs, des glaciers. Lorsque des gens sont descendus dans la rue pour protester contre cette situation, l'État a engagé le seul dialogue qu'il tolère, celui qui répond aux revendications populaires par des coups de matraque. Même chose, lorsque la société s'est mobilisée pour défendre le patrimoine naturel menacé par les transnationales de la production d'électricité, lorsque les lycéens ont exigé une éducation publique de qualité, libérée du monopole du marché, ou lorsqu'une grande partie du pays a pris la défense du peuple mapuche, systématiquement opprimé. Chaque fois, l'État a eu la même réponse, réprimer et affirmer que les protestataires menacer le miracle économique chilien. La paix de l'oasis chilienne n'a pas volé en éclats à cause d'une simple hausse du prix du ticket de métro à Santiago. Elle a été rongée par les injustices commises au nom des statistiques macroéconomiques, par l'insolence de ministres qui conseillent aux gens de se lever plus tôt pour économiser sur le coût des transports en commun, qui, face à la hausse du prix du pain, recommandent d'acheter des fleurs parce qu'elles au moins n'ont pas augmenté, qui invitent à organiser des soirées bingo dans l'espoir de récolter des fonds pour réparer la toiture de ces écoles que la première ondée inonde. La paix de l'oasis chilien a volé en éclats parce qu'il n'y a rien de juste dans le fait de terminer ses études universitaires lestées d'un fardeau de dettes qu'il faudra 15 ou 20 ans pour rembourser. La paix de l'oasis chilienne a volé en éclats parce que le système des retraites se retrouve aux mains d'entreprises vampires qui investissent les fonds qu'elles récoltent sur les marchés spéculatifs et font payer les pertes qu'elles enregistrent aux retraités, ces petits gens auxquels elles versent des pensions de misère calculées sur la base d'une évaluation morbide du nombre d'années qu'il leur reste à vivre. La paix de l'oasis chilienne a volé en éclats parce qu'au moment de choisir la société qui gérera son compte de capitalisation pour la retraite, le travailleur, l'ouvrier, le petit patron doit avoir à l'esprit cette mise en garde des autorités. La plus grande partie de ta retraite dépendra de l'intelligence dont tu auras fait preuve en plaçant ton épargne sur les marchés financiers. La paix de l'oasis chilienne a volé en éclats parce qu'une majorité de gens ont commencé à dire non à la précarité et se sont lancés à la reconquête des droits qu'ils avaient perdus. Il n'existe pas de rébellion plus juste et plus démocratique que celle qui secoue le Chili. Les manifestants exigent une nouvelle constitution qui représente l'ensemble de la nation dans toute sa diversité. Ils exigent qu'on revienne sur la privatisation de l'eau et de la mer. Ils exigent le droit d'exister et d'être considérés comme les sujets actifs du développement du pays. Ils exigent d'être traités comme des citoyens, pas comme la portion congrue d'un modèle économique condamné à l'échec par son inhumanité. Il n'existe pas de rébellion plus juste et plus démocratique que celle qui secoue le Chili. Il n'existe pas de répression si dure et criminelle soit-elle qui puisse entraver un peuple qui se lève.
Yo soy a la chillaneca, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Juega larga militar.
On viendra ensemble dans d'autres émissions sur la situation au Chili qui mérite vraiment qu'on aille regarder un peu ce qui s'y passe. Voilà, je vous propose de finir cette émission en écoutant sa voix.
Pour répondre à nos questions, eh bien, c'est parti. Il me semble que mercredi, on se refera un petit quiz Star Wars avec Pouldo. Voilà, voilà. Ça ne marche pas. Mira nous dit que ça ne marche pas. Plus fort la voix pour la technique. Je monte ma voix. Pas de souci. Est-ce que là, vous m'entendez mieux ? Est-ce que vous m'entendez mieux sur le chat ? C'est bon, super. Alors, nous allons donc repartir pour une deuxième manche de quiz Harry Potter. Les personnes qui n'ont pas encore réussi à atteindre le chat de Radio Sans Nous, on vous rappelle que vous pouvez y accéder par le site covid19.cma-pdll. Tout en bas, elle n'est pas très visible, mais quand vous tapez, normalement, on vous peut vous lire. Voilà, voilà. Et le son est trop bas, on me dit sur le chat. Paf, est-ce que là, vous m'entendez mieux ? C'est bon. Alors, nous allons partir pour notre première... Alors, les hauts et les bas, c'est normal, c'est que ma connexion Internet n'est pas très sympa aujourd'hui. Alors, première question du quiz Harry Potter. Attention à vos claviers. Donnez-moi un maximum d'informations sur l'arbitre de la Coupe du Monde de Quidditch dans le tome 4. Euh, Il est égyptien, oui. Bravo, groupe. Il est arbitre. Merci le moine très gras, mais je vous l'ai déjà donné celle-là. Il est président d'un machin, groupe. Ouais, mais il va falloir être plus précis. Mira, tu crois qu'il est arbitre, c'est bien. Bonjour à Luc qui vient d'arriver sur le chat. Genre de la Fédé internationale de Quidditch, groupe, c'est pas tout à fait une fédération, mais elle est internationale et ça concerne le Quidditch, ouais. Jabba, si tu ne peux pas entendre, rafraîchis ta page si les gens répondent à la question avant même, en général, c'est qu'il y a un petit temps de latence, mais si tu rafraîchis ta page, ça devrait passer. Attention, donc on sait qu'il est égyptien et qu'il est arbitre et qu'il est président d'un machin qui serait peut-être la Fédé internationale de Quidditch, mais c'est pas ça. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations sur le président, sur l'arbitre de la Coupe du Monde de Quidditch? Il file un penalty à l'Irlande ou deux ou trois? C'est deux groupes. Il file deux penalties. C'est pas une ligue internationale, Mira. Il file deux penalties à l'Irlande, effectivement, dans le match de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. C'est une association internationale de Quidditch, tout à fait, mais il n'est pas juste président. Vous séchez. Directeur, président Manitou, pas président Manitou, président sorcier, il y a un autre terme en plus. Je vous donne la réponse. Ah, j'attends, groupe veut que j'attende. Donc, on sait qu'il est égyptien, qu'il est président sorcier, quelque chose de l'Association internationale de Quidditch. Qu'il se fait séduire par les Vélans, exactement, groupe, qu'il a donné deux pénalties à l'Irlande et qu'il est arbitre. Donc il est président sorcier quelque chose de l'Association internationale de Quidditch. Est-ce que vous allez trouver ce quelque chose? Vous pouvez me donner encore deux autres informations, par exemple son nom et son prénom. Il tombe dans les pommes. Non, il tombe pas dans les pommes pendant le match. Général, oui c'est ça, il est président sorcier général de l'Association internationale de Quidditch. Bravo Jabba. Hassan quelque chose, tout à fait, son prénom c'est Hassan. Moubarak, non, bien sûr, mais c'est un truc dans le genre. C'est pas Hosni Moubarak, groupe. Si c'est un truc dans le genre c'est en langue arabe, c'est oui, effectivement, groupe. Mostafa, tout à fait, Hassan Mostafa. Bravo. Vous auriez aussi pu me dire qu'un médicomage lui donne un coup de pied dans le tibia. Parce qu'il a été séduit par des Vélans. Voilà pour cette question. Bravo. Nouvelle question. Quel est l'autre nom de Buck l'hippogriffe? Attention, attention. Vent debout. Bravo, groupe. Quelles sont les conditions que pose Slughorn pour retourner à Poudlard? Mira, c'est vent debout en un seul mot. Le bureau de machin truc, merci Mira, mais il va falloir être plus précise. Augmentation et bureau de tête en joie, tout à fait. C'est exactement ça qu'il veut. Une question facile pour vous, très très facile. Qui remplace la grosse dame après son agression par Sirius? Tic, tac, tic, tac, tic. Tac, tic. Le maigre chevalier, il est pas maigre le moine très 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 gras. Le chevalier au catogan, tout à fait. Attention, c'est une question à réponse multiple. Nommez-moi 10 membres de l'Ordre du Phénix, deuxième génération, c'est-à-dire au moment de la deuxième guerre. Ça veut dire que les gens morts pendant la Première Guerre ou qui ne pouvaient plus en faire partie au moment de la Deuxième Guerre ne comptent pas. Arthur et Molly, tout à fait. Bill et Fleur, tout à fait. Dumbledore, au moment de la Deuxième Guerre, Mira, il était déjà mort, je suis désolée. Oui, Grope te le dit d'ailleurs dans le chat, Dumby, il est dead. Mon Argus, ouais. Lupin et Tonks, exactement. Mrs. Fig aussi. Charlie, si Charlie en fait partie, Rogue en fait partie, oui. Folleuil, Fred et George, ouais. Vous êtes pas mal, vous êtes pas mal du tout. Vous en avez 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fleur, elle a été dit, ouais, Jabba. Bah, vous en avez plus de 10, bravo. On aurait pu rajouter, il y a Kingsley aussi, trop bien. Bravo Jabba. Précision qui s'appelle son nom de famille Shacklebot. Shacklebot. Mira, bien vu. Vous auriez pu rajouter Strudgy Spawnmore. Mais personne pense jamais à lui alors qu'il est cool. Attention, nouvelle question. Quelle est la meilleure chose qui soit arrivée à Poudlard selon Argus Ruzard? Jones aussi, ouais, on aurait pu rajouter Jones. Ombrage, merci groupe. Dans le tournoi de Quidditch classique, hors Poudlard et hors compétition internationale, quelle équipe Ron supporte-t-il? Les canons de pas mal Mira, mais Shudley, ouais, groupe. Shirley, c'était pas tout à fait ça, Jabba, mais c'était pas loin. Nouvelle question, on est encore plutôt dans le tome 4. Comment Victor Krum réussit-il à passer devant son dragon lors de la première épreuve du tournoi des trois sorciers? Ah, vous ne vous souvenez plus? En se transformant en chien, non, Jabba, c'est pas lui. Et non, le bail de chien, Mira, c'est pas lui. Et du coup, vous allez pouvoir essayer de me dire aussi qui se transforme en chien. L'œil, groupe, il va falloir être précis. Hein. En lançant un sortilège de conjonctivite au dragon. Tout à fait. Et alors, question subsidiaire, qui utilise une transformation en chien? Est-ce que c'est une personne qui se transforme en chien? C'est Cédric, tout à fait. Bravo, bravo. Et est-ce qu'il se transforme en chien? Ou est-ce qu'il fait autre chose? Non, il transforme un caillou. Ouais, gros Pémira, bravo. Il transforme une pierre en chien pour que le dragon s'intéresse plus au chien qu'à lui. Ça marche moitié pas d'ailleurs. Nouvelle question Quidditch. Attention. À Poudlard, il y a toujours, lors des matchs, des personnes qui commentent les matchs, mais c'est vrai aussi en dehors de Poudlard. Et du coup, qui sont les différents commentateurs, commentatrices des matchs de Quidditch qu'on lit dans Harry Potter? Les différentes personnes qui font office de speaker et speakerine pendant les matchs de Quidditch. Lee Jordan, Luna Lovegood, ok, à Poudlard, et Ludo Verpey, Lee Jordan, Luna. Exactement, bravo. Quel est le nom complet de la craque-molle chargée par Dumbledore de veiller sur Harry à Private Drive? Elle s'appelle comment? Arabella Figgs. Merci, groupe. Quelle technique de médecine moldue Arthur Weasley a-t-il essayé avec un soigneur de Sainte-Mangouste sur ses blessures? Attention, attention, attention. Les points de suture. Merci, Mira. Attention, nouvelle question. Que font les langues de plomb? En quoi consiste le travail des langues de plomb? Département des mystères. Mais c'est ça, on sait pas. Personne ne sait ce qu'ils font, on sait juste qu'ils travaillent au département des mystères. Bravo, groupe Emira. Dis donc, Jabba et le moine Sregra, vous êtes en train de vous faire distancier, peut-être. Battez-vous, j'ai confiance en vous, vous allez y arriver. Les laissez pas rafler toutes les mises. Quel est le nom du rédacteur en chef de la Gazette du Sorcier? Jabba, tu vois les réponses avant la fin de la question. Alors peut-être, Mira et groupe, vous pouvez laisser un petit temps de latence, un peu plus long. Et donc, je répète la question, quel est le nom du rédacteur en chef de la Gazette du Sorcier? Et groupe trouve ça hardcore. Le moine très gras dit, j'ai lu les livres entre 11 et 14 ans. Il serait peut-être temps de les relire. Barnabas quelque chose, tout à fait. Bah oui, je suis désolée, le moine très gras, c'est un questionnaire hardcore. On pourra faire une version accueil la prochaine fois. Il s'appelle Barnabas quelque chose, c'est pas mal, groupe. Et tu les relis en anglais, mais tu comprends un mot sur 10, le moine très gras. Et c'est un peu chaud, moi, je trouve, en anglais, quand on les a pas lus 25 fois. Est-ce que vous voulez que je vous donne le nom de famille du rédacteur en chef de la Gazette du Sorcier? Il s'appelle Cuff. Bravo Jabba. Bravo, bravo, bravo Jabba. Et non, c'est pas Deagle, Mira. Jabba, tu as assuré sur ce coup-là. Bravo, bravo. Alors, comment la professeure Trelawney surnomme-t-elle Firenze? Ouais, il t'est revenu loin son nom. Ouais, tu m'étonnes. Le surnom de Firenze, Percheron. Bravo, groupe. Avec quel sortilège Hermione envoie-t-elle des oiseaux sur Ron? Au Pougno, bravo Mira, bravo groupe dans la foulée. Comment appelle-t-on les membres de la brigade de réparation des accidents de sorcellerie? Jabba, il y a groupe qui te demande s'il y a assez de temps qui est laissé pour que tu aies le temps d'entendre et de réfléchir 3 secondes. Les oubliators, pas oubliator. Mira, oubliator. Ok, bravo à Mira, groupe et Jabba pour cette réponse. À quoi sert le sortilège de Rictus Sempra? Rictus Sempra. À faire rire, Jabba, ouais, tout à fait. À faire rigoler, c'est sortilège de chatouille et c'est ridicule selon groupe. Ok, je vous annonce qu'il nous reste 4 questions. Une question pas très complexe vu votre niveau. Comment s'appelle le collectif que fonde Hermione ? Merci Mira pour la précision. À ne pas confondre avec Sectus Sempra. Et que fait Sectus Sempra peut-être ? S-A-L-E, la S-A-L-E, c'est bien ça. On aide les elfes, ouais, on aide les elfes de maison, et vous pouvez me dire ce que ça veut dire, S-A-L-E ? À base, elle écrit un truc hyper long de ouf, tout à fait, c'est la société d'aide à la libération des elfes. Tout à fait, vous avez raison. Je vous cherche d'autres questions parce que vous trouvez ça trop court, mais il faut pas que je vous ai déjà faites. J'en ai quelques autres sous la main. Qui retrouve Harry dans le train lors de l'arrivée de son arrivée à Poudlard en sixième année ? Il est coincé dans le train pour une raison obscure. Il y a une personne qui tombe sur lui. On est bien sur des questions qui concernent uniquement... Ouais, c'est Tonks et c'est Luna dans les films, exactement. Bien vu, bien vu. Et j'ai donc une question film. Attention, c'est une question film. On n'en a qu'une, je crois, dans notre questionnaire, mais bon. Notre question film est: dans quel livre Neville trouve-t-il les propriétés de la branchiflore ? Le 4. Le moine gras, c'est pour toi. Effectivement, c'est plutôt une question film. C'est pas dans quel livre ça se passe, les petits chats, c'est dans quel livre Neville y trouve les propriétés de la branchiflore. Dans un livre, il découvre ses propriétés. Et ce livre, il a un titre. Et je voudrais que vous me donniez son titre. Dans le bouquin de Plantas méditerranéennes, top 10 des plantes magiques qui déboîtent. Alors, il y a un peu de ça. Plantes aquatiques du bassin méditerranéen. On y est presque, Mira. On y est presque. Mais bravo, c'était balèze. Ce sont propriétés des plantes aquatiques du bassin méditerranéen. Ouais, tout à fait, Jabba. Bravo, bravo. Qu'est-ce que je vous ai pas fait comme question ? Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Dans quelle équipe de Quidditch Ludo Verpa a-t-il joué ? L'équipe nationale d'Angleterre et les frelons de Winbourne. Exactement, bravo. Alors, allez-y, il paraît que vous avez des questions à poser. Je les relais à la radio sans problème. Ah, ça, je ne voulais pas faire. Non, je sais pas, c'est pour aider groupe. Ok. En attendant, je peux vous demander quel est le patronus de Kingsley. Ah, mais je crois qu'on l'a fait la dernière fois. Déjà faite, un lynx. Pardon, j'essaye de vous trouver... Mais je crois que j'arrive au bout de mes questions. Qui est chargé de la protection des Dursley dans le tome 7 ? Didalus Deagle, tout à fait, groupe, et une meuf, ouais, mais elle a un nom. Estia Jones, tout à fait. J'ai encore deux questions et après, ce sera la fin de notre quiz partie 2 Harry Potter. Qu'est-ce que Rogue... Ah, Grof nous pose une question. Quel est le nom de l'endroit où il y a un porte-loin pour aller à la Coupe du Monde? Je croyais vous l'avoir faite la dernière fois, c'est pour ça que je ne l'ai pas reposé. Que prennent les Weasley et Harry et Hermione? Ouais. Et le quiz Star Wars sera jeudi à partir de 14h. La colline de je sais pas quoi selon Mira, de Tetafouine selon Jabba, tout à fait. Bravo. J'ai une petite question. Ouais, bravo Jabba, stylé. Qu'est-ce que Rogue promet d'enseigner au plus doué de ses élèves lors de son premier cours? Alors Rogue, il promet d'enseigner des choses à ses élèves. Une potion pour emprisonner la mort, à mettre la mort en bouteille, à distiller la mort, enfermer la gloire en bouteille, emprisonner les sens, enfermer son esprit. Selon Grop, c'est pas tout à fait ça. Jabba, tu trouves ça beau? Alors, je vous le fais. C'est à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner les sens. Je peux leur apprendre à mettre la gloire en bouteille et à distiller la grandeur et même à enfermer la mort dans un flacon. Voilà, voilà. Quel est le nom du sorcier portant un chapeau haut de forme violet qu'Harry croise dans la rue avec Dudley et Pétunia lorsqu'il ne sait pas encore qu'il est un sorcier? Ah, le moine gras trouve que Rogue a du style, le bougre. Didalus Diggle, bravo. Bravo, Grop et Mira. Ok, ok, ok. Vous êtes super balèze. Ça, c'est trop facile pour vous. Quelle est la composition et la longueur de la baguette d'Harry? Ouais, Grop, on a posé la même question. Taille et composition de la baguette d'Harry. Houx et plume de phénix, bois de houx, tout à fait. 27 cm, c'est pas tout à fait Samira. 27 cm et demi en bois de houx et plume de phénix. On a une précision sur la plume de phénix peut-être? Oui, on a une précision, groupe. Mira nous dit Fumsec. Est-ce que tu essaierais de nous dire que c'est une plume de Fumsec? Tout à fait. Et la baguette de Harry est jumelle de celle de Voldy, qui serait donc un surnom affectueux que donne Grop à Voldemort. Hein. Qui est-ce qui appelle Voldemort Voldy, d'ailleurs? Une nouvelle question, je vous le demande. Bella, non, Bellatrix n'appelle pas Voldemort Voldy. Enfin, en tout cas, on ne le sait pas. C'est l'esprit frappeur, merci Grop. Le nom de l'esprit frappeur? L'esprit frappeur de Poudlard, ouais, mais il a un prénom. F quelque chose selon le moine gras. Ce n'est pas ça. Bah alors. Pives. Tout à fait, Jabba. Bravo. Comment entre-t-on dans les cuisines de Poudlard? Comment on entre dans la cuisine de Poudlard? En chatouillant la poire du tableau. Et il est où ce tableau? C'est ton domaine, le moine très gras, ouais. Mais où est ce tableau? Près de chez Poufsouffle, effectivement. Ouais, mais il a une dans le château, en bas. Bah, devant les cuisines, merci Mira, on était ravis. Mais les cuisines, elles sont situées où géographiquement? À part en bas. Vous ne savez pas? Sous la grande salle, merci Mira. C'était exactement ça la réponse que j'attendais. C'était sous la grande salle. Alors, ça je vous l'ai déjà fait la dernière fois. Eh bien, nous allons arriver à la fin de notre questionnaire Harry Potter. Je crois que... Ah, groupe a une proposition de question, attention. On a un appel à trouver des questions à Harry Potter, donc vous pouvez venir sur le chat pour poser des questions, je les relais à la radio. En attendant, j'en ai trouvé une que je crois ne pas vous avoir faite la dernière fois. C'est de savoir comment meurt Broderick Morose. Mira, je pose ta question dans la foulée. Comment est mort Broderick Morose? Et en parallèle, du coup, niqué par un filet du diable à Sainte-Mangouste. Merci, groupe, un petit mec maigre, déjà fait assassinat avec des boutons. Ah, on l'avait déjà fait, pardon. Qui est la personne qui accueille Harry dans le Magicobus? Donc, le moine très gras nous dit que c'est un petit mec maigre avec des boutons. Il se trouve que ce mec a un nom. Un groupe dit « Ah ouais, c'est l'autre, là. » Je sais plus son blaze, mais après, c'est un mange-mort. Est-ce qu'on est vraiment sûr de ça, Mira? Est-ce que c'est un mange-mort après? Oui, je sais que vous allez trouver, groupe. Je vous fais entièrement confiance. Groupe est sûr que c'est un mange-mort. Bien, moi, il me semble qu'il est accusé d'être un mange-mort, mais que c'est pas un mange-mort, mais je suis pas sûre de moi. Et c'est notamment un des trucs qui énerve Harry, c'est qu'il a été arrêté comme mange-mort. Ouais, Jabba, t'es d'accord avec moi, il se la pète juste d'être un mange-mort, mais en fait... Donc, on demande qui accueille Harry dans le Magicobus. Un groupe, tu nous dis, après il le voit essayer de niquer Harry, il attaque Harry. Ok, ben, peut-être je me suis trompée. Donc, il y a une personne qui accueille Harry dans le Magicobus. Il est petit, maigre, c'est un mec, et il a des boutons. Il a un nom et un prénom. C'est un faf qui aime bien traîner avec les copains et faire des blagues racistes, mais en vrai, il flippe de la bagarre. Ça, c'est la définition de cette personne par le moine très gras. Je vous demande son nom. Surtout qu'il vient de m'échapper alors que je l'avais. Est-ce qu'il s'appellerait Stanley? Ernie, c'est le pilote. Ouais. Tout à fait. Ernie, c'est le pilote. Stan Rocade. Bravo, groupe. Et le pilote, c'est Ernie. Tout à fait, tout à fait. Quel joueur d'Irlande chute lors de la feinte de Vronsky de Crum? Jabba, bravo pour cette question, elle est magnifique. Quel est le nom du joueur d'Irlande qui chute lors de la feinte de Vronsky de Crum? C'est chaud. Groupe nous dit Fins. Nope, nous dit Jabba. Attention, nous créons un quiz Harry Potter en live sur Radio Sans Nous après avoir épuisé une soixantaine de questions, même plus, en deux épisodes. Les gens sur le chat nous posent des questions pièges sur Harry Potter. Attention, attention, est-ce que c'est un nom comme ça ? Non, ce n'est pas un nom comme ça. Mira, ne... Groupe non plus. Jabba, tu viens de poser une colle. Aiden Lynch. Bravo Jabba pour cette question. Et maintenant, groupe s'en souvient. Avez-vous une dernière question pour nous ? Qu'est-ce qu'un Gurg ? Jabba a des questions bien classes. Ah ouais, c'est le chef des géants. Tout à fait, groupe. Attention, attention, est-ce que Jabba va nous trouver une nouvelle question ? Mira, comment se libèrent les membres de l'AD à la fin du 5 pour voler au secours de Sirius ? Jolie la question. Avec des bonbons, nous dit groupe. Sont-ce vraiment des bonbons ? De Fred et Georges, mais lesquels ? Demande Mira. Là, Dobby, tu pourrais avoir la réponse, par exemple. Je sais que tu nous écoutes. Quel est le nom des bonbons de Fred et George qui sont utilisés par les membres de l'AD à la fin du 5 pour voler au secours de Sirius ? Enfin, pour se libérer de... On ne sait pas qui. Moi, je l'ai. Mais je laisse un peu de temps au chat. Des pastilles de gerbe. Ouais, Jabba en même temps. Joli. Et... Comment s'appelle le chef des centaures, enfin, entre guillemets, chef des centaures hostile à Firenze ? C'est une question de groupe. Ban. Merci Jabba. Jolie. Quelle forme a la cicatrice de Dumby, alias Dumbledore ? La forme de la carte du métro de Londres. Bravo, groupe. Quel est le nom complet de Dumbledore ? Facile. Albus, ouais. Perceval, Albus, Perceval, Wilfried. Donc nous avons une proposition sur Albus, Perceval, Wilfried, Dumbledore. Je crois que c'est exact. Comment s'appelle le groupe d'élèves qui sont recrutés par Ombrage pour faire la discipline ? La brigade inquisitoriale, ouais, merci groupe. Avez-vous une dernière question ? Ou des dernières questions ? Mira nous répond, les FAF. « Alors, en attendant une nouvelle question formidable de Jabba, je vous rappelle que pour la rubrique « Des sons d'écrit », nous cherchons à récolter un maximum de témoignages de personnes qui pourraient nous faire un petit son où elles racontent un souvenir lié à la lecture d'Harry Potter dans leur vie, et ce serait cool que vous nous les envoyiez. Et on n'oublie pas le quiz Star Wars, partie 2, jeudi à 14h. Et Grope nous demande à qui les Weasley empruntent leur tente de ouf. Jabba, je fais ta question après. Et en parallèle, parce que vous avez l'air de galérer sur cette petite question de à qui les Weasley empruntent-ils leur tente de ouf, Odigori nous dira non. En parallèle, on peut se demander où se cache la grosse dame après l'attaque de Sirius. Les Weasley n'ont pas emprunté leur tente aux Diggory, puisque les Diggory avaient besoin d'une tente, puisqu'ils étaient aussi à la Coupe du Monde. Vous séchez sur ces deux questions. Où se cache la grosse dame après l'attaque de Sirius, nous demande Jabba. Jabba propose Munch comme personne. Perkins. Est-ce que ce serait Perkins, groupe? Mira pense que... Oui, c'est Perkins. C'est son collègue de bureau, mais non. Il s'appelle Basile, son collègue de bureau. Conflit sur le chat. Dans quel tableau précisément se cache la grosse dame à l'attaque de Sirius? Mira pense que c'est dans un tableau en haut de la tour d'astronomie. Jabba lui demande d'être plus précise. Et Mira ne peut pas. Grope nous dit, il y a un hippopotame. Tout à fait. Mira pense que c'est que dans le film. Ah, peut-être effectivement. Ok. Avez-vous une dernière question avant que nous rendions l'antenne? Eh bien, le chat n'a pas l'air d'avoir d'autres questions de derrière les fagots. Ah si, Mira. Avec quel sang le message est écrit sur les murs dans le 2 par Ginny? Et le moine gras nous souhaite amour, jus de citrouille sur nos baguettes. Grope répond à Mira, des poulets de Hagrid? Jabba aussi est sur le poulet. Le moine gras pense que c'est le sang du basilic. Poulet et peut-être dindon, d'après Mira. Moi, je dirais que c'est plutôt du sang de coq. Parce que le chant des coqs tue le basilic. Et du coup, elle tue les coqs et elle se sert du sang. Vous avez l'air d'accord avec moi. Merci. Et c'est pas du tout du sang de basilic le moins très grave, parce qu'elle tue pas le basilic, Ginny. On va s'arrêter là pour ce petit quiz Harry Potter. On essaye de vous préparer des nouvelles questions. Jeudi, il y a quiz partie 2 sur Star Wars, donc n'hésitez pas à venir sur le chat. Et puis, Mira vous fait des bisous, la bande à Moldu. On vous souhaite à très bientôt et n'hésitez pas à nous envoyer par mail à radio.sansnous@cemea-pdll.org vos souvenirs liés à la lecture d'Harry Potter. Dans l'idéal, vous les avez enregistrés avec un téléphone ou un Zoom ou tout type de support qui sert à enregistrer du son. Et sinon, vous pouvez les écrire et on les lira pour vous. À très bientôt. Pour Radio Sans Nous, c'est fini ce midi. On se retrouve à 20h pour l'émission des mômes. Et demain à 12h30 pour une nouvelle émission du midi. Salut, salut !